Mario Botta, on peut juger son architecture démodée. On en parlera d'ailleurs avec lui en fin d'émission. Ce dont nous parle son architecture, c'est d'une résistance aux valeurs du monde postmoderne, globalisé, mondialisé, une résistance au spectacle, à la futilité aussi, d'un ancrage dans un territoire limité, on pourrait dire un terroir, même si sa production à lui, Mario Botta, est mondiale. Il nous parle d'une architecture un peu lourde et très matérielle, il nous parle d'une architecture qui tente à une certaine pérennité, qui tente à être durable. Beaucoup de ces édifices sont massifs, jusqu'à devenir des sortes de monuments, des totems. Pourtant, les valeurs du monument aujourd'hui sont moins fondées philosophiquement, elles ont beaucoup moins d'autorité bien sûr. Beaucoup d'architectures contemporaines cherchent l'impermanence, le provisoire, l'effacement. La sienne, pas du tout. La sienne se pense à partir du sol, le sol comme socle, le sol sur lequel elle pèse tout son poids. La pente a longtemps été l'un de ses terrains de prédilection. Ces maisons sont solides, elles sont assez closes. D'autres auraient dessiné des maisons plus ouvertes, transparentes, immatérielles, fragiles même. Les siennes sont protectrices. Elles sont des intérieurs avec des parois épaisses, des percements contrôlés. C'est par ailleurs un architecte manuel qui dessine à la main, qui dessine au crayon gras, dans une veine un peu traditionnelle. Avant d'écouter Botta, quelques mots sur cette notion de régionalisme critique que l'anglo-saxon Kenneth Frampton, un très célèbre historien critique de l'architecture, avait développé au tout début des années 80 en réaction au postmodernisme qui alors triomphait. Frampton, qui a signé l'introduction d'ailleurs de la première monographie sur Botta, parue en 1979, cet architecte avait 35 ans, 36 ans. Ce critique invitait à enrichir les valeurs de la modernité en devenant attentif à la spécificité de chaque lieu, de chaque région, de chaque territoire. Il soutenait que ces valeurs, celles de la modernité, survivaient autour de certaines écoles architecturales un peu isolées, en Catalogne, au Tessin, dans la région de Porto, autour de Siza par exemple, ou avec Tadawando, dans la région d'Osaka. Kenneth Frampton comptait sur cette nouvelle génération d'architectes, moins compromise dans les errements de la modernité, du fonctionnalisme, plus critique, munie d'une conscience historique et sociale. Il défendait une architecture moins abstraite, moins fonctionnelle, moins universaliste aussi, inscrite dans une région, mais qui en évitait le pittoresque, le folklore, le vernaculaire. Un long article de Frampton, paru en français en 1987 dans la revue Critique, éclaire très bien sa position. Il est intitulé « Pour un régionalisme critique et une architecture de résistance » et il est placé sous l'exergue d'un texte de Paul Ricoeur, le philosophe et phénoménologue. C'est une citation extraite d'un ouvrage de 1955 très connu, « Histoire et vérité ». Voici ce qu'écrit Ricoeur en 1955. « En même temps qu'une promotion de l'humanité, le phénomène d'universalisation constitue une sorte de subtile destruction. » Non seulement des cultures traditionnelles, ce qui serait peut-être pas mal irréparable, mais du noyau créateur des grandes civilisations, des grandes cultures. Ce noyau à partir duquel nous interprétons la vie et que j'appelle par anticipation le noyau éthique et mythique de l'humanité. Cette menace se traduit en autres effets inquiétants par la diffusion sous nos yeux d'une civilisation de pacotille. C'est un fait, toute culture ne peut supporter et absorber le choc de la civilisation mondiale. Voici donc un texte qui a 54 ans de Paul Ricoeur, Histoire et vérité. Le propos fondamental du régionalisme critique, écrivait de son côté Frampton, est d'amortir l'impact de la civilisation universelle au moyen d'éléments empruntés indirectement aux particularités propres à chaque lieu. Une inspiration directrice peut être trouvée dans des données comme l'intensité, la qualité de la lumière locale ou dans une tectonique. Tectonique, c'est un mot qu'emploie beaucoup Frampton. Il a même développé toute une théorie à ce propos. Ça veut dire une architecture considérée du point de vue de la construction. Dans une tectonique, donc, dérivée d'une structure particulière ou encore de la topographie même du site. Rejoignons Mario Botta. Nous l'avions rencontré à la fin septembre, le jour de la première vendange, comme venait d'ouvrir un chai qu'il avait dessiné pour Château Faugère à Saint-Étienne-de-Lys, près de Saint-Émilion. Mario Botta, vous êtes né en 1943, oui. Un 1er avril. C'est une plaisanterie, hein, le 1er avril, au Tessin.
Oui, comme aussi.
Chez nous. Donc vous êtes né le 1er avril, par
8 mois. Donc en plus, la surprise, c'était que j'avais un mois d'avance.
Et à Mendrisio. Mendrisio, c'est dans le Tessin.
Oui.
Et c'est pas loin d'un village qui s'appelle Bissorne, qui est à 10 km environ.
Oui.
Longtemps avant vous, était né un autre architecte. Ouais. On pourrait dire donc presque dans le même village.
Oui, là c'est une terre d'architectes. Bissorne, 1599, il est né Francesco Borromini, le grand architecte
italien, lui. Enfin, il est devenu italien, on pourrait dire.
Il est devenu italien, oui. Puisqu'il n'existait pas la Suisse, oui, oui, dans ce moment-là.
Il y a même des billets de banque il y a quelques années encore avec des,
avec,
des bâtiments de...
Avec les bâtiments de Borromini. Et c'est un grand architecte, je pense, dans l'histoire du baroque italien. Mais dans la même région, Borromini, il est parti de Bissone puisque son oncle s'appelait Carlo Maderno, qui était un autre architecte qui travaillait à Rome pour la façade de Saint-Pierre. Et donc, seulement ces deux noms, il vous dit que c'est une région, celle des lacs, à partir de laquelle il y a eu une émigration d'architectes pendant des siècles et des siècles.
Jusqu'à Saint-Pétersbourg et jusque dans toutes sortes de régions.
Exactement.
Dans quel milieu êtes-vous né ? Dans quel milieu social ?
J'étais mon père, il était un employé de l'État, ma mère d'origine paysan, donc je dirais un milieu rural modeste. Oui, j'ai les souvenirs de ma jeunesse avec l'extérieur, je dirais la culture de la maison, elle n'était pas présente. La maison, c'était simplement la cuisine, les chambres. Il y avait toute une série d'espaces de transition entre la maison et la campagne. Il y avait la cour, il y avait la place du village, il y avait toute une série de microclimats qui faisaient de transition. Et donc là, j'ai respiré un peu le besoin d'espace, je dirais, le besoin d'espace public. La maison comme prolongement d'une condition plus collective.
À 15 ans, vous êtes devenu, on pourrait dire, apprenti, oui, chez un architecte assez connu qui s'appelait Tita Carloni, oui, qui était né en 1931, donc il était relativement jeune encore, à peu,
oui,
près.
À,
hein,
moment-là.
Je ne sais pas s'il est vivant, Tita Carloni.
Oui, oui,
il est,
oui,
vivant, oui,
oui.
Pourquoi vous... C'est pour faire comme Palladio, comme ça, faire d'apprenti à 15 ans?
Non, c'est puisque je n'avais pas envie de continuer les études. J'ai toujours prouvé une résistance vis-à-vis des institutions. Et alors, le fait de... après l'école moyenne, je ne sais pas comment on l'appelle en France, avant d'aller au, oui, lycée, j'ai arrêté, j'ai décidé que c'était mieux la confrontation directe avec le travail. Et j'ai trouvé cette place, je voulais toujours faire quelque chose lié à l'image. J'avais une facilité dans la mémoire visuelle. Et j'ai eu l'occasion d'aller à faire le dessinateur pour un architecte. Il y a une école de 3 ans et un apprenti, donc une pratique qu'on faisait pendant 4 jours la semaine. Et c'était ma chance, dans le sens que dans ce moment-là, j'ai eu clair comment mon métier pouvait être aussi ma passion. Et j'ai découvert dans ce bureau de Carloni à Lugano la force d'un trait dessiné qui devient réalité. Vraiment les éléments les plus primordiaux de l'architecture découverts à 15 ans.
Et ça, ce qui fait que vous n'avez pas découvert l'architecture par les voies intellectuelles, c'est,
non,
de l'esthétique, c'est des musées, c'est... mais par les voies,
oui,
concrètes du métier.
Oui, je dirais que l'émotion, peut-être encore aujourd'hui, la plus forte que j'ai essayée dans ma vie, c'est quand j'ai vu que la couverture qui fermait le soleil pour la dernière fois, qui rentrait dans un espace que moi j'avais dessiné, une petite maison pour des amis. Et ça, c'est chacun de nous, je pense qu'il a des émotions particulières. Il m'a beaucoup touché. Et à partir de là, je dois dire, tout il a été facile. Même les études, je n'étais pas particulièrement porté pour étudier. Je ne savais pas bien comment on devait faire à étudier. Quand je rentrais à la maison, je jouais dans les champs. J'avais pas une culture liée aux études. Mais à partir de ce moment-là, même l'histoire de l'art, il est devenu un thème de grand intérêt. Et tout, il était plus facile.
Alors, vous passez 2 ou 3 ans chez cet architecte, puis vous reprenez des études à Milan,
oui,
au lycée pour terminer,
oui,
vos études ordinaires jusqu'au,
oui,
baccalauréat, quoi,
oui,
plus ou moins. Et puis ensuite, vous intégrez l'Institut d'architecture de Venise. C'est,
oui,
en 64, vous y restez 4 ou 5 ans,
oui,
le temps d'avoir votre diplôme. Et là, vous rencontrez 3 très grandes figures,
oui,
qui vous marquez,
oui,
beaucoup. Vous les rencontrez, je dirais, un peu de justesse.
Oui.
Le Corbusier, qui avait pas, oui, moins de 80 ans, qui,
oui,
est mort cette année-là, Louis Kahn, qui avait 65 ans et qui travaille à Venise, vous allez me dire pourquoi, et Carlo Scarpa, qui avait 60 ans, lui. En quoi chacun... Alors, qu'avez-vous fait d'abord avec l'un et l'autre, brièvement, et en quoi chacun a laissé une trace chez vous?
Donc là, Venise, c'était le territoire de ma formation. Avant tout, la rencontre avec Venise, qui est encore aujourd'hui, je pense, un modèle d'agrégation de vie la plus sophistiquée et la plus belle que je connais, non, avec la séparation des parcours, des marchandises sur les canaux et les piétons dans les calles. Donc la rencontre avec Venise et la chance qui passe dans ce moment, c'est trois grands personnages. Carlo Scarpa, qui était mon professeur et qui m'a accompagné pendant jusqu'au diplôme, jusqu'à la laurea. Et Le Corbusier, qui était présent 64-65 pour le projet de nouveau hôpital de Venise. Et dans le 69, Louis Kahn pour le Palais de Congrès. Donc, trois occasions que j'ai prises, puisque j'avais déjà la force, peut-être que les autres étudiants ne l'avaient pas, la force de l'expérience du travail avant. Ils m'ont beaucoup aidé à comprendre que je devais me relier à ces personnages. J'ai dit, le raisonnement, c'était un peu naïf, de dire, je suis là pour étudier architecture, passe Le Corbusier, je ne peux pas le laisser passer, je dois le prendre.
Vous avez un peu travaillé même pour lui, enfin, très peu, mais un peu.
Oui, j'ai travaillé, puisque pas directement avec lui, avec ses collaborateurs, Julien de la Fuente et José Aubrerie, puisque Le Corbusier avait envie de faire un petit atelier sur la place à Venise pour simplifier les rapports avec le maître de l'ouvrage qui était les médecins de l'hôpital. Et donc, j'ai travaillé quelques mois à Venise pour son atelier. Et après, on avait concordé avec lui d'aller à Rue de Sèvres à partir de septembre. Mais lui, il est décédé le 28 août.
Oui. Donc, vous l'avez connu un peu?
Je l'ai rencontré, je ne peux pas dire. Oui.
Et quelle trace a-t-il laissé? Vous pouvez les décrire, ces traces?
Mais donc, Le Corbusier, c'est un monstre. C'est comme Einstein pour la physique. Vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer, mais vous devez faire le compte. Et c'était l'homme, pour moi, à mes yeux, qui l'a amené l'architecture éclectique du début siècle à Ronchamp. Donc, c'était l'histoire du moderne.
Mais dans votre propre écriture, il y a des échos encore de Le Corbusier? Il y en avait un peu dans la maison que vous avez faite pour vos parents, est votre première grande œuvre.
Oui, oui.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes redevable stylistiquement ou...
Non, aujourd'hui, je dirais de non. J'ai des autres dettes plus fortes avec Louis Kahn, mais à ce moment-là, c'était bien de comprendre comment Le Corbusier, peut-être que c'était sa vraie force, il arrivait à transformer en architecture les événements de la vie. Donc, il y avait le problème de la reconstruction après-guerre, et lui, il fait les maisons Citroën, etc. Il y a le problème de l'existence minimum et il dessine la machine habitée. Donc c'est un homme qui a été capable de transformer les besoins de la société, de la vie, en architecture.
Scarpa, c'est un architecte extrêmement précieux.
Oui.
Vous êtes peu précieux.
De temps en temps, au minimum, je cherche de l'être. Dans le sens que Scarpa, c'est, je dirais, sa capacité... Peut-être la plus forte, c'est d'avoir la capacité de faire parler les matériaux, même les plus humbles. Donc, je ne dirais pas tellement dans les détails, comme plusieurs critiques le voient. Je pense que sa force, c'est la capacité de donner expression aux formes de construire, de la terre jusqu'à l'or. Il était un homme qui était capable d'interpréter les matériaux et tirer le mieux de ces matériaux-là. C'était un homme d'une hypersensibilité extraordinaire, peut-être le plus grand homme sensible à la lumière, aux matériaux, à la forme d'expression que j'ai jamais rencontré.
Vous, vos matériaux sont en général assez rudes, assez frustes, enfin, volontairement, mais il y a quand même chez vous souvent un goût du ciselage, des choses qui sont finement découpées dedans.
Oui.
Et j'ai toujours pensé que ça venait peut-être un peu de Scarpa, ça.
Oui, ça, il vient de Scarpa. Puisque Scarpa, il m'a enseigné à traiter les matériaux. Hein. Par exemple, Scarpa, il disait que pour couper une pierre, il ne faut pas commencer à les scier d'un homme, mais on devait faire un trou et après commencer de l'intérieur. C'est une petite remarque, mais qui vous donne le grand respect que Scarpa il avait des matériaux.
Quant à Cannes était à Venise aussi pour travailler.
Oui, Cannes il est venu à Venise dans le 69 pour construire, pour faire le projet, puisque après il n'a pas été réalisé, du palais de congrès aux Giardini, dans la zone de l'actuelle biennale à Venise. C'était une rencontre messianique, dans le sens que je connaissais seulement Cannes à travers quelques publications, pas beaucoup. Je me souviens Vincent Scully, un premier livre intéressant. Mais la rencontre personnelle, là j'ai eu la chance de travailler avec lui quelques mois quand il est resté à Venise. Et c'était un homme vraiment messianique, dans le sens que sa grande culture, il a amené à comprendre les limites du développement technologique, du progrès technologique, et il se posait le problème de l'homme au centre de la recherche d'architecture. C'est un homme capable d'aller aux origines des problèmes, de se poser les problèmes pour comprendre la signification.
Et ça, c'est resté une des clés de votre pensée, je dirais.
J'espère que ce soit comme ça, dans le sens qu'il me semble que l'architecture...
Un goût de l'essentiel et un goût de ce qui est pérenne aussi, de ce qui dure.
Oui, oui, oui. La durée, je pense qu'il a une valeur. Malgré la société de consommation qui dirait l'envers, je pense que la force de l'architecture, c'est qu'il dure au-delà de la vie de l'architecte même. Donc, c'est assez un jour de plus que... nos œuvres y survit à l'architecte pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui parlera d'une mémoire.
Mario Botta, vous êtes un constructeur, vous employez souvent les mots qui sont relatifs au métier, mais enfin c'est aussi un tic italien, parce que Gregotti parle beaucoup de métier, beaucoup d'Italiens ou de gens de culture comme ça proche parlent de métier, mais enfin vous êtes vraiment un constructeur d'abord au sens matériel du mot, c'est-à-dire que même si elles sont en béton armé, même si elles sont en bois quelquefois, mais surtout quand elles sont en briques ou quand elles sont en parpaing de ciment, quand elles étaient en parpaing de ciment, vos architectures sont presque toujours faites de fragments, de pièces, de petits fragments, lisibles, chacun avec sa dimension, chacun avec son matériau, chacun avec son poids, chacun avec sa texture, son grain, et chacun à sa place, très articulé. Ça, c'est une culture presque de maçon que vous avez.
Oui. Oui, on peut dire, moi j'aime le mot métier, dans le sens qu'il y a une forme d'apprentissage qui vient de loin. C'est pas simplement l'application technique, c'est pas seulement une profession, c'est pas une prestation d'un savoir. C'est quelque chose qui est lié à une mémoire historique. Donc le sens de gravité qui est l'élément plus fort du fait architectural, toutes les charges, même les plus extroverses, même celle de Calatrave, à la fin, il doit toucher le sol et décharger les charges au sol. Donc l'idée de cette gravité, je l'aime comme une valeur du fait architectural. Nos villes, quand on les voit, on ressent la gravité comme une valeur, comme si l'architecture il sort du terrain même, plutôt que d'être posée sur le terrain.
Une bonne part de l'architecture la plus immédiatement contemporaine cherche au contraire à lui échapper.
Oui. Oui, oui.
Soit par le biais de l'immatérialité, soit comme Herzog et de Meuron, en découpant un bâtiment pour donner l'impression qu'il flotte dans l'espace, tout ça. Oui. Donc vous êtes assez attaché à ces valeurs éternelles, on pourrait dire archaïques aussi d'une certaine façon.
Oui, mais je pense que les formes d'expression dans l'architecture sont les plus vastes, et donc ça va bien aussi pour ceux qui pensent que l'architecture doit voler. Pour moi, je dirais, si je dois faire quelque chose qui vole, je fais un avion. Mais si je dois faire un bâtiment, j'aime cette complicité de l'architecture, du bâti avec le terrain. Et donc, je trouve plus congénial cette forme d'expression, que je pense qu'il est légitime, puisqu'il y a eu une histoire millénaire sur ça. Le problème, c'est de donner une expression capable de soutenir les attentes, les expectatives, les objectifs, les espoirs aussi d'aujourd'hui.
Est-ce que vous continuez à faire du design? Vous parliez tout à l'heure de Scarpa. Scarpa est un grand architecte, c'est aussi un très très grand designer. Pas tellement d'objets, mais de cadres, de tableaux, de cimaises, d'escaliers, de marches, de meubles, etc. Souvent intégré d'ailleurs à son architecture, le plus souvent intégré à son architecture, de portes par exemple. Vous aviez autrefois fait des meubles. Oui. Et vous continuez à en faire de temps en temps.
Oui.
Et puis en même temps, vous avouiez que ça n'était pas tout à fait votre registre.
Oui, oui. C'est vrai, puisque j'ai continué encore à faire des meubles, mais qui sont plutôt des petites architectures que des vrais designs. Puisque le design a besoin d'un processus à lui tout à fait particulier. Il faut connaître les entreprises, il faut rentrer dans une loi du marché, il faut connaître les fabriques pour la production. Donc je pense qu'il est un métier en soi-même. Mais malgré ça, j'aime de temps en temps me confronter avec cette dimension plus réduit, qu'il m'oblige à un exercice, à une gymnastique du détail, d'un côté, et de l'autre aussi avec des délais qui sont moins lourds, avec des temps plus réduits vis-à-vis de la fabrication. J'ai besoin d'une vérification, et le design, il me permet de l'avoir de manière plus rapide que l'architecture.
Et est-ce que quand vous dessinez par une chaise que vous avez faite il y a plus de 20 ans, oui, peut-être, 25 ans peut-être, dans laquelle il y avait un gros boudin rond, oui, qui faisait, oui, le dosseret sur une tige métallique, oui, horizontale. Est-ce que quand on travaille comme ça une forme, à cette échelle-là, ça a des effets en retour sur l'architecture?
Pas directement.
C'est pas seulement un divertissement.
Oui. Non, pas directement, mais indirectement, oui, puisque vous apprenez à combiner les différents matériaux, à combiner les différentes formes, à créer une tension, puisque aussi là, le grand cylindre, en effet, c'est l'élément opposé à la structure rectiligne de la chaise. Donc,
par ailleurs, assez grêle la chaise, assez, oui, mince, assez,
oui,
grêle.
Oui. Alors, je cherche de jouer sur le contraste quand il est possible. Il me semble que le contraste, il met en valeur et la structure et l'objet à réaction poétique, pour le dire, comme Le Corbusier.
On disait tout à l'heure que vous étiez un constructeur au sens matériel du mot, c'est-à-dire que vous construisez pezzo per pezzo, pièce à pièce, brique à brique, etc. Mais vous êtes aussi un constructeur au sens de la composition, c'est-à-dire pièce à pièce, mais cette fois stanza per stanza.
Oui.
Ce que Kahn appelait room.
Oui. Je pense qu'il est intéressant de partir d'un élément fini pour créer un système. Donc, l'architecture qui, comme élément additionnel des éléments, des formes finies. Et il faut le faire de manière, il faut être attentif, puisqu'il peut devenir ennuyeux, il peut devenir acritique. Mais le principe d'ajouter un élément complet et de le multiplier, c'est une manière qui est pertinente à la typologie architecturale que dans l'histoire on retrouve.
Sauf que chez vous, cette articulation, cette mécanique des espaces, souvent est en quelque sorte comprimée dans un objet qui a une forme très définie, une volumétrie très définie, comme si vous l'aviez sculpté presque de l'intérieur parfois.
Oui, le problème des formes primaires que vous dites dans le contraste avec le paysage, c'est dû au fait que je pense que le fait architectural doit, en manière générale, on est en train de simplifier maintenant, mais il doit répondre toujours à deux conditions. Un, le rapport avec le paysage, qui est quelque chose qui est important pour la construction du territoire, et qui donc il doit répondre à une perception très rapide de ce qui passe, etc. Et les formes primaires, ils m'aident à comprendre la présence et la force iconographique de ça. Et le deuxième, à l'intérieur de ça, au contraire, il y a la dimension domestique, la dimension humaine, qui demande de ne pas avoir un espace célébratif, mais d'avoir un espace articulé pour la dimension domestique. Donc, c'est une condition présente dans toutes les architectures, ça.
Je ne sais pas si vous avez lu, Mario, les textes de Claude Nicolas Ledoux, l'architecte.
Oui.
Et il y a un texte dont je tire deux phrases, qui me fait un peu penser à vous. Toutes les formes que l'on décrit d'un seul trait de compas sont avouées par le goût. Le cercle, le carré, voilà les lettres alphabétiques que les auteurs emploient dans la texture des meilleurs ouvrages. Lettres alphabétiques, texture, chez vous aussi, le carré, le cercle,
oui,
en plus ellipse.
Oui, les formes primaires, je dirais en général, même le triangle, ont cette facilité que vous, à travers un petit détail, vous arrivez à reconstruire le tout. Quand vous êtes à l'intérieur d'un espace avec un plan central, vous comprenez même l'espace qu'il y a derrière vous, dans le sens que la lecture d'un détail il vous permet de reconstruire l'ensemble. Et ça, c'est un avantage extraordinaire, puisque vous n'avez pas besoin d'explication. C'est exactement l'envers du labyrinthe. Et le besoin de se orienter à l'intérieur d'un espace, je pense que c'est une valeur.
Justement, vos édifices sont très souvent symétriques, presque toujours. Enfin, ils ont une tendance à la symétrie, si le programme le permet ou le site le permet. C'est une position, vous savez bien, que beaucoup de gens dans la modernité ont critiqué, notamment le célèbre critique italien Bruno Zevi, qui a toujours estimé que c'était fasciste, disait-il.
Ou mais homosexuel, aussi, même il disait.
Et en tout cas, anti-moderne. Vous êtes très attaché à la symétrie, notamment pour des raisons de lumière.
Oui, mais la symétrie, c'est un instrument, donc je ne veux pas faire l'apologie ni de la géométrie, ni de la symétrie, mais il dépend de comment il est utilisé. Il y a des bâtiments symétriques très rhétoriques, pensez à l'architecture du fascisme ou du nazisme, où il y a des architectures symétriques extraordinaires. Pensez-vous à Palladio ou même, je dirais, à Frank Lloyd Wright, il y a certaines choses. Donc, en soi-même, on ne peut pas dire qu'il est bien ou il est mal. C'est un instrument, il peut être utilisé bien ou mal. Mais la symétrie, il a un grand avantage. Il a l'avantage avant tout d'avoir un équilibre des forces de gravité d'un côté et surtout un équilibre de la lumière, puisqu'il vous permet de contrôler, de maîtriser le jeu de la lumière à l'intérieur de l'espace.
Qu'est-ce qui passerait si on ne contrôlait pas la lumière?
Ça, c'est... Il deviendrait dramatique, puisque sans lumière, il n'existe pas l'espace. Si vous éteignez une lumière, l'espace il va disparaître. La vraie génératrice de l'espace, c'est la lumière. Ce n'est même pas la géométrie. C'est la lumière qui donne sens à l'espace. Évidemment, à travers les matériaux, puisque la lumière en soi-même, elle n'existe pas comme présence physique. Mais alors, si vous mettez ensemble la géométrie, la symétrie, le sens de gravité et la lumière, vous trouvez que quand même la composition, je dirais, symétrique, c'est pas si bête comme on pense de la faire apparaître.
Autre thématique de votre architecture, un effet que recherche visiblement votre architecture, c'est un effet de présence. Ce sont des architectures qui sont même, il s'agit d'une maison individuelle, je pense à cette maison qui pour moi a toujours été un prodige, qui est la maison ronde de Stabio, que vous avez faite vers 82, je crois. J'ai toujours éprouvé face à cette maison une très très grande émotion, quoi. D'archaïsme, de lourdeur, etc. Ces effets de présence, de massivité, etc., de durabilité, de permanence, comme disent les architectes, visent à faire des architectures des sortes de monuments aussi. Donc des choses dans tous les sens du mot monument, y compris la chose qui va durer dans le temps.
De l'archétype, je dirais. C'est vrai, mais le premier acte de faire architecture, c'est pas celle de mettre pierre sur pierre, mais celle de mettre pierre sur le terrain. Donc, de transformer une condition de nature dans une condition de culture. Et là, il y a le principe du monument. L'homme, il veut faire apparaître sa présence, sa manière de penser, son travail. Et je dirais, derrière tout, je pense que même une chaise, il pourrait devenir un trône. Je dirais, nous, on lit la chaise comme objet domestique, mais en effet, sa nature, c'est d'avoir l'homme assis avec une dignité. Donc, la présence monumentale en soi-même, du fait architectural, je pense qu'il est une ambition cachée dans l'architecture. Même, je dirais, les bâtiments les plus... Si on prend les bâtiments de Guéry, en effet, il veut être aussi un monument. Il casse la typologie du monument, mais il veut être une présence capable de dialoguer et de se confronter par contraposition avec le paysage de l'alentour.
Vos maisons sont souvent très closes, assez protectrices. Ce sont plutôt des grottes que que des vitrines. Mais une maison, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi projection vers l'extérieur d'un destin familial, d'une identité, etc. Est-ce que vos maisons sont un petit peu des portraits des gens qui habitent dedans?
C'est difficile à dire puisque le client, il a toujours une influence, même si l'architecte ne veut pas, à travers le cahier de charge, à travers les recommandations, à travers les colloques. Donc probablement, chaque maison, ils répondent un peu. Mais le vrai client, c'est l'histoire. Donc nous, on fait une maison pour monsieur Bianchi ou monsieur Rossi, mais en effet, on le fait pour le citoyen de ce temple-là. Les singuliers, les privés, ils peuvent vendre la maison, mais la maison, il reste comme un modèle de habitat de ce territoire. Donc, c'est vrai qu'il y a une présence indirecte du client, mais c'est plutôt vrai aussi que l'idée de l'habitat que l'architecte propose soit plus fort. Mais, par exemple, l'idée de la protection dans une maison, moi, je pense qu'il est très fort, malgré tout ce qu'on veut faire passer aujourd'hui. Encore, nous, quand on est fatigué, on dit « je n'ai à marre, je vais à la maison ». Qu'est-ce qu'il veut dire, ça? Il veut dire que la maison, il reste comme but final d'un processus qui nous permet de regagner les forces pour le lendemain. Donc la maison, c'est quelque chose de
d'un peu régressif.
D'un peu régressif et très précieux, qu'il nous met en rapport avec une mémoire collective. Je dirais, il ne faut pas avoir peur de ça. Nous, on ne peut pas habiter tout seul. Quand on va habiter, on est toujours dans une collectivité et donc toujours dans une histoire. Et là, il peut sortir l'autre grand thème de la modernité, oublié ou apparemment oublié, qui est la mémoire. Moi, je pense que l'architecte trouve son sens, trouve son territoire de recherche dans le territoire de la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui nous alimente, c'est un passé, pour le dire comme avec Louis Kahn, c'est un passato come un amico, le passé comme quelque chose qui nous appartient et qu'on reconnaît comme un ami. Et de ça, je pense que la vieille Europe, c'est un témoin extraordinaire. Et alors là, on peut parler de la ville, dans le sens que vis-à-vis des différents modèles, le modèle américain ou le modèle asiatique, je trouve que la ville européenne, c'est encore aujourd'hui un modèle extraordinaire de vie collective, d'une liaison qui nous permettra d'avoir un bien-être de vie beaucoup plus sophistiqué que les autres patrimoines.
Le barbier de Séville, c'est l'air Largo al factotum du célèbre tableau de l'acte 1, scène 2. C'est Figaro. Tra-la, lela, tra-la, lela, tra-la, lela. Largo al factotum della città, faites place au factotum de la cité. Ah, quelle vie plaisante pour un barbier de talent. Mario Botta, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de votre manière de travailler, notamment votre manière de dessiner. Vous êtes un des architectes que j'ai vu le plus dessiner. Des dessins de toutes sortes, par exemple des petits croquis pour faire des autographes ou des cadeaux, ou pour dédicacer un livre, par exemple. Très, très expressif. On comprend extrêmement bien le bâtiment, c'est fait en une minute. Et puis des dessins aussi, ou sur des notes de papier, ou sur des tableaux pour des conférences. Et puis vos croquis de recherche. Il y a quelques années, vos croquis de recherche étaient étranges. Parce que autant vos dessins concepts comme ça sont petits, vite faits, etc., autant vos croquis de recherche étaient, on sentait que vous poussiez la pointe du crayon de façon molle, maladroite presque, comme pour chercher la forme. Ouais. C'est quand vous cherchez, vous ne savez pas dessiner un rond bien, alors que si vous faites un petit dessin, vous faites le rond parfaitement.
Mais j'utilise le dessin comme instrument de recherche. et pas comme instrument de représentation, comme vous avez cité dans le deuxième cas. Donc il y a le dessin, vous pouvez représenter quelque chose, alors le dessin il est rapide. Le dessin de recherche, au contraire, c'est comme un parcours à l'intérieur de votre pensée. Et je dois dire que le dessin, il m'aide beaucoup. C'est-à-dire la ligne de dessin, il porte en soi-même un espoir. Que par exemple le computer, le plotter ou la chose sur l'écran, il ne me donne pas. C'est problème probablement de génération. Mais j'adore le dessin pour comprendre les choses. Je ne suis pas capable de rêver des solutions seulement de manière abstraite. J'ai besoin du parcours du crayon qui m'aide à comprendre quand il est bon. Ce n'est pas un problème du pensée. Je le vois sur le dessin. Et quand il est mauvais aussi, si la main il se bouge, c'est puisque la solution il est encore loin. Quand il s'arrête, la solution il est bonne. Et dans ce sens-là, c'est une éducation que j'ai eue d'un procès qui n'est pas strictement intellectuel, mais qui est très pragmatique. Il a besoin d'expérimenter la solution.
On dirait que vous utilisez le crayon noir comme vous modèleriez quelque chose, comme oui, avec de la terre, oui, vous feriez un vase.
Exactement. C'est vraiment
à
comme...
tâtons, je veux dire, vous dessinez un peu à tâtons.
Oui, c'est comme vous dites, un instrument qui doit être modelé. C'est une recherche continuelle. Et je dois dire encore aujourd'hui vis-à-vis de mon bureau où tout le monde il travaille avec l'ordinateur, je ne suis même pas capable de corriger sur l'écran. Oui. J'ai besoin de faire imprimer et de l'avoir sur le plan horizontal et là je peux corriger. Mais quand je le vois sur le plan vertical, c'est un problème de mentalité, je n'arrive pas à rentrer même dans la lecture et donc dans la correction.
Vous avez un crayon à la main, oui. En ce moment un crayon noir, ce qu'on appelait un criterium autrefois. Et j'ai une phrase de vous à l'esprit, « Tengo sempre la matita in mano, mi aiuta a pensare oui. ». Je tiens toujours le crayon dans la main, ça m'aide à penser.
C'est vrai. Encore aujourd'hui, de manière instinctive, j'ai enlevé...
Alors qu'il n'y a pas de papier devant vous, mais vous avez votre crayon là.
Oui, vous m'avez sollicité une réflexion sur le dessin, j'ai... de manière automatique enlever le crayon. Mais ça, je pense que chacun de nous, il a son approche à la créativité. Donc, c'est pas qu'il existe une manière plutôt qu'une autre. Chacun de nous, c'est ça le difficile aujourd'hui. Faire ce qui se retient comme génial. Puisque nous, on est sollicité à s'occuper de tout. Et pour faire notre métier, pour rentrer dans la création, il faut être capable d'effacer des choses et de retenir la voix qui nous permet de pénétrer en profondeur dans les problèmes.
Mais justement, j'ai souvent été frappé, déjà depuis longtemps, entre la différence, la distance qu'il y a entre vos propres dessins, Mario Botta, est-ce qu'ils ont d'un petit peu irrégulier, etc. Et donc, de potentiel, parce qu'une chose irrégulière, c'est une chose qui a du potentiel encore. Mmh. Et les dessins, notamment les axonométries, ou les perspectives oui. que rendait votre agence, oui. qui bien sûr sont tracées à l'encre, maintenant à l'ordinateur, donc qui sont plus secs, alors que votre architecture est un peu entre les deux, parce que dans votre architecture, il y a un peu de tremblé.
Oui, ça c'est vrai.
De tremblé de la matière.
C'est vrai. Mais peut-être que c'est une correction faite a posteriori pour voir que le résultat, il est propre, il est géométrique, il est clair, chose que dans le processus, absolument, il n'existe pas.
Vous ne faites plus de dessins d'expression. Je veux dire, par exemple, il y a des dessins très beaux dont je me souviens, c'est les deux dessins, les deux coupes pour la chapelle de Mogno, oui, Saint-Jean-Baptiste, oui, 86, oui, c'est ancien. Oui, vous oui, les voyez, ce dont je parlais, oui, avec oui, un crayon très gras,
oui,
et puis l'expression des lits de pierre. Oui, c'est vous qui avez fait ce dessin?
Oui, là, je le fais un samedi. J'avais envie, j'avais le besoin de ramener chez moi un sentiment que je cherchais. Donc, je ne fais pas exprès, mais de temps en temps, j'ai besoin de visualiser les choses.
Et vous continuez parfois à faire un dessin soigné, comme ça, comme un petit chef-d'œuvre.
Oui.
La texture, on parlait de texture à propos de Ledoux, mais chez vous, donc, la texture, et là, on rejoint un peu le dessin, ou la non-capacité qu'a le dessin à rendre compte d'une texture, c'est une sorte de matité, de rugosité que vous aimez introduire dans la brique ou dans les joints du parpaing, quand vous faisiez du parpaing, etc.
Oui, mais la texture du mur, c'est très important, dans le sens que c'est celle qui, à la fin, il donne la vibration. Et la vibration, c'est dû à l'effet de la lumière sur la matière, sur la pierre. Et chaque fois, se pose le problème, comment je rendre ce mur-là sur le, sur le papier, c'est une ligne, oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas une ligne. Et donc, en fonction des différents matériaux, essayer de comprendre que la matière puisse avoir une âme, puisse avoir une vibration, puisse avoir une forme d'expression, comme nous, on la retrouve de manière naturelle dans les centres historiques. Oui. La séduction de l'architecture romane, il est dû aussi au fait qu'il arrive à nous après 1000 ans de transformation et érodé par le vent, etc. Donc, dans la matière, pour exprimer la matière, je cherche la texture pour essayer de la rendre au mieux de sa capacité de... Regardez un profil en pierre, quelle force il prend seulement avec 1 centimètre au-delà de la surface de base.
Ou une écorce. On est entouré d'arbres, les écorces là, ont une texture qui est très agréable. Mario Botta, vous vous aventurez quand même très rarement dans la franche rusticité, c'est-à-dire dans la pierre grossièrement taillée. Oui. À ma connaissance, une fois quand même, dans la chapelle du Monte Tamaro, qui est un mont dans le Tessin, là, qui du coup prend un caractère un peu étrange, parce que c'est presque comme certaines villas éclectiques du début du siècle. On a l'impression que vous faites presque du Viollet-le-Duc là-bas.
Oui, mais il y a la contrepartie, pour vous contraster un peu, vers l'intérieur, qui est tout en stucco lucido, donc qui est en noir. Mais c'est vrai, là, puisque j'ai voulu cette pierre rouge, puisque la pierre de la montagne, elle était une pierre pleine de fer. Et la pierre de la montagne, elle était trop friable. J'ai dû prendre une porphyde, qui est celle-là, qui on pouvait l'avoir seulement coupée. Et alors j'ai utilisé la pierre coupée.
Cassée, on pourrait dire presque.
Cassée, facettes, cassée. Hein, c'est ça, oui. T'as pas coupé, cassée, pour l'utiliser de manière un peu plus... fort. Mais c'est vrai que si j'aurais utilisé une autre pierre, probablement la forme, l'utilisation de la texture pouvait être différente.
Une chose m'a frappé en regardant comme ça des livres. Il y a un nombre de livres incroyables sur vous. J'ai compté que j'en ai 32, moi.
Oui,
une centaine. Une centaine, c'est
ça. Je suis en train de préparer une exposition l'année prochaine.
En effectuant rapidement, je me suis aperçu d'une thématique. C'est la thématique des escaliers, trop inclinés, très verticaux, qui se lancent sur certains édifices un peu comme un contrefort gothique.
Oui, l'escalier, c'est ce moment où on change de niveau. Hein. C'est un thème, on pourrait travailler une vie entière sur l'escalier. Mais c'est vrai que c'est l'élément architectural qui nous permet de passer d'un niveau à un autre niveau. Et donc, c'est un instrument, je pense, qui porte en soi-même la volonté de devenir quelque chose. On ne peut pas faire un escalier comme s'il est une rampe douce, c'est-à-dire ressentir que l'homme, il doit faire un effort, qu'il y a marche sur marche. Et les marches, il peut devenir aussi un dessin. C'est vrai, c'est un des éléments, je dirais, de dessin à l'intérieur de l'architecture.
Vous avez construit beaucoup d'églises, une douzaine, je crois, maintenant, à peu près. Et puis quelques musées, que souvent on identifie aux églises, puisque dans le musée, comme dans l'église, il y a un certain rapport au sacré et à la lumière. Et dans un article assez ancien qui s'appelle « Architectura Espacio Sacro », je lis ceci, les architectures privilégient le silence. C'est une formule qui est presque celle de Wiccan, hein? Silence and light.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par silence dans l'architecture?
Silence dans le sens que l'architecture, il n'a pas besoin d'un bruit pour s'exprimer, il n'a pas besoin d'une musique pour s'exprimer. Il y a des espaces faits expressément pour la musique, mais ça c'est autre chose. Mais en général, j'aime de l'architecture le silence du dimanche, le silence de quand il n'y a pas trop d'activité. Et donc l'architecture, il ressort avec toute la dignité. Il y a une valeur qui dépasse, je dirais, sa capacité d'être élément de vie à l'intérieur de la collectivité. Et dans ce sens-là, il parle au même titre que les monuments anciens. Et alors l'architecture, en effet, c'est une manière d'équilibrer une histoire, une période, une mémoire. Je répète encore ce mot, puisque je trouve que le construit porte en soi-même la prise de possession de la terre d'un côté, l'espoir de l'autre, et donc la mémoire de son propre époque. Il y a très peu de choses comme l'architecture qui ont la force d'être un témoin, malgré toutes les contradictions, d'être un témoin de son propre époque. L'architecture peut parler seulement de la contemporanéité.
Justement, ça c'est une chose, c'est une question que je voulais vous poser presque pour finir. Marie Botta, vous avez été un des architectes immensément célébré au début des années 80. Très jeune, 30 ans peut-être, presque, oui. 35 ans, c'était extraordinaire votre notoriété. Je me souviens d'être allé avec vous dans les biennales au Brésil, en Argentine.
Oui. Oui.
Les foules qui se précipitaient vers
oui.
vous.
Oui.
Et puis, il s'est passé ceci, vous avez été un des représentants avec quelques Portugais comme Cisa, avec d'autres Tessinois, avec Tadawando au Japon, de ce qu'on appelait le régionalisme critique. Vous avez vraiment incarné un moment très important de l'histoire d'architecture des années 60-70. Et puis, bizarrement, sans que votre production souffre, c'est que vous avez toujours des commandes assez nombreuses, il semblerait que la mode et la critique se soient un peu détournées de vous. Comment expliquez-vous ça et est-ce que vous en souffrez?
Non, je n'en souffre, je dirais, de manière épidermique, dans le sens que c'est vrai, je me retrouve au dehors de la mode. Et au contraire, avant, j'étais dans la mode.
Pourtant, vous n'avez pas changé.
Non, je n'ai pas changé.
Donc c'est la mode qui a changé.
C'est la mode qui a changé, mais justement, la mode, il doit changer. Mais vous savez, en tant que vous vieillissez comme architecte, vous comprenez beaucoup de choses. Donc, vous savez que votre vocabulaire, votre langage, votre esprit, il a encore beaucoup de choses à dire d'un côté, et vous avez un temps toujours plus réduit pour le dire, puisque la vie, c'est pas infini. Et donc vous insistez là où vous ressentez que vous êtes plus fort, vous êtes plus armé pour répondre aux grandes contradictions de la vie. Et je dois dire ça de manière honnête, j'ai jamais rencouru la mode, non. Même je dirais ma réserve vis-à-vis du design italien, c'est puisqu'on devait être toujours présente sur le plateau du spectacle, non, dans le design. L'architecture a besoin du temps et donc a besoin de réflexion. J'ai la chance d'aimer le métier que je fais et de trouver encore des raisons un peu, je dirais, testardi, je ne sais pas comment dire, qu'on répète sans...
Un entêtement.
Un peu comme le même entêtement qu'avait Giacometti quand il refaisait toujours le visage, avec la conscience qu'on n'aurait jamais fait ce que lui il voulait dans le visage.
Mais par exemple, vous n'avez eu aucun des grands prix mondiaux, ni le Carlsberg, ni le Mies van der Rohe, le prix européen, ni le Pritzker, ni le Primum Impérial, aucun. C'est quand même tout à fait étonnant. Et est-ce que vous pensez que votre temps est passé du point de vue de ce genre de notoriété, ou est-ce que vous pensez que comme votre architecture vise à une certaine éternité, ça va vous rattraper avant votre disparition ou après?
Je ne sais pas. Ça, vous savez, les prix, le vrai prix pour l'architecte, c'est d'avoir du travail. Ça, et là, moi, j'ai été primé dans toute la vie, puisque ça, je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de chances, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de plaisir de travailler. Après, les autres prix littéraires, il faut faire part d'un certain cercle. Par exemple, le fait que je ne parle pas l'anglais, évidemment, ça a été un handicap énorme, puisque je ne pouvais pas tenir des leçons, expliquer les choses. Mais c'est, je dirais non, pour moi, c'est, évidemment, s'il devrait arriver un prix, je serais bien content de le prendre, mais ce n'est pas la raison de ma vie. Je dirais, je préfère faire une autre petite chapelle au sommet d'une montagne que prendre un prix, s'il y a cette possible contraposition.
Dernière question, Mario Botta, avant qu'on se quitte. Elle touchera à votre écriture. Vous avez souvent déclaré que votre architecture, enfin d'abord que l'architecture doit parler de façon très simple, très directe, de fait, votre architecture parle de façon simple et directe, qu'il fallait construire sans style.
Oui.
Or, vous avez bien un style à vous, puisque même si vous avez été un petit peu plagié, il y a un faux Botta à Copenhague,
oui,
par exemple, et puis oui, quelques faux Botta ça
oui,
ou là.
Oui.
Mais vous avez un style inimitable. C'est-à-dire que tout fragment de votre architecture, par un spécialiste, est reconnu comme une architecture de Botta. Donc il y a bien un style.
Oui. Ça, c'est vrai.
À force de n'en pas vouloir.
Oui. Ça sont les contradictions des choses qu'on dit vis-à-vis de ce qu'on fait, mais il faut les accepter. Mais je dois dire que je pense que chacun de nous, il doit faire ce qu'il y a congénial. Le problème de l'écriture, Picasso, il utilisait la même écriture pour les Demoiselles d'Avignon et après pour Guernica. Et ils sont deux messages complètement différents. Garcia Marquez, son écriture, c'est bon pour un roman et pour l'autre. L'écriture, c'est quelque chose qui appartient à une histoire autobiographique qu'on ne peut pas changer. Ça fait part de la naissance, de la culture, des sources qu'on a eues, d'un territoire. Donc...
Et un terme plus précis, puisque l'architecture est autobiographique, puisque l'architecture et l'écriture sont une représentation de vous-même, de votre être
aussi
intime, d'une certaine façon. Pourriez-vous, en quelques mots, dire quel est cet être intime que révèle cette architecture un peu rude et un peu solide?
Mais je n'ai jamais réfléchi sur quoi je fais exactement. Je suis toujours poussé par les événements, le travail. J'ai beaucoup à faire dans le monde entier dans ce moment-là, beaucoup en Asie, à Pékin, en Corée, en Amérique. Je suis en train de terminer un musée à Charlotte, en North Carolina. Et je ne me suis jamais posé beaucoup de problèmes. À ce moment-là, je préfère être poussé par les événements. Et un jour, quand je serai obligé, comme tous les humains, à m'arrêter, alors probablement, si j'aurai le temps, je regarderai de manière différente ce que j'ai fait pendant ces longues vies du travail. L'année prochaine, je ferai une exposition au MART à Rovereto. Il m'a beaucoup étonné, puisque le musée m'a dit « On veut faire 50 ans de travail de Mario Botta. » Et oui, comment 50 ans? Eh oui, et j'ai calculé, ils sont 51 ans de travail, puisque la première maison, c'était de 1959.
On termine avec un dernier air du Barbier de Séville, c'est l'air très célèbre, La Calugna e un venticello, acte 2, scène 8. La Calugna e un venticello, un auretta sai gentile. La calomnie est un petit vent, une petite brise très gentille qui est imperceptible, subtile, légèrement, doucement, commence à murmurer.
Comincia sussurrar. Piano, piano. Terra, terra.
On trouvera sur notre site internet une très abondante bibliographie des ouvrages sur Mario Botta. Il nous disait tout à l'heure qu'il en était paru plus de 100. C'était Métropolitain, nous recevions l'architecte tessinois Mario Botta. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 31 décembre, pour la dernière émission de cette année. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet qui offre divers services, bibliographiques, calendriers, index, etc. Permet de télécharger l'émission durant une semaine, de l'écouter pendant un mois, à n'importe quelle heure et où que vous soyez, et même à Hambourg, car c'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands le long des quais crevant d'ennui, c'est à Hambourg ou bien ailleurs qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve dans plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel, à Bornéo, c'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Edith Piaf, c'est à Hambourg, 1957, paroles de Michel Senlis et Claude Delécluse, musique de Marguerite Monod. Cette adresse est franceculture.com. C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Viviane Noël, avec la technique Clément Daté.